Bonjour et bienvenue dans l'hebdo des jeunes reporters pour cette semaine du vendredi 22 au jeudi 28 janvier. Commençons alors au Brésil où Jair Bolsonaro, le président, est accusé de crimes contre l'humanité par le chef indigène Raoni. Il l'accuse de meurtre, d'extermination et de mise en esclavage des autochtones d'Amazonie. Si Bolsonaro est visé, c'est à cause de la politique pro-déforestation qu'il mène depuis son arrivée au pouvoir.
Ce vendredi 22 janvier, Lenny Romero, 20 ans, est condamné à un an de prison et 500 euros d'amende pour l'organisation de soirées clandestines en discothèque, ainsi que pour mise en danger de la vie d'autrui. Le jeune homme était déjà connu de la justice, organisant des soirées dès le printemps dernier et minimisant les rassemblements, qu'il disait être des « réunions entre amis ».
En France, toujours, Plantu annonce qu'il démissionnera du journal Le Monde le 31 mars après y avoir longuement servi. Le caricaturiste sera remplacé par le collectif Cartooning for Peace, composé de 220 membres aux origines très variées.
En 48 heures, le navire humanitaire de SOS Méditerranée Ocean Viking effectue un troisième sauvetage venant en aide à des migrants guinéens. Ce vendredi 22 janvier, le bateau compte à bord 374 personnes, dont 165 mineurs, 35 enfants et 21 bébés. Le débarquement originellement prévu en Libye devrait se faire sur les côtes maltaises ou italiennes, mais le navire est toujours en attente d'une réponse des pays.
L'État russe censure en masse le contenu pro-Navalny paru sur les réseaux sociaux suite aux accusations faites par l'opposant. Aucun réseau n'y échappe. YouTube, VKontakte, Instagram ou encore TikTok.
Alexei Navalny frappe donc fort auprès de la population russe, causant également d'importantes manifestations ce samedi 23 janvier. En effet, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour demander la libération de l'opposant russe. À Moscou, c'est l'un des rassemblements les plus importants en 20 ans. La police est intervenue et a effectué plus de 3700 arrestations dans 114 villes différentes.
Pendant ce temps, les ministres des Affaires étrangères européennes se mettent d'accord pour entamer le dialogue avec Ankara. Pour rappel, en fin d'année 2020, la Méditerranée a connu certaines tensions à cause de ressources en hydrocarbures grecques convoitées par la Turquie.
Nous en avions parlé la semaine dernière et c'est ce samedi 23 janvier que le journal L'Équipe paraît de nouveau après 14 jours de grève, protestant contre un plan d'économie concernant la suppression de 50 postes. Le mouvement de grève est cependant uniquement suspendu et le personnel annonce. Il fallait mettre le mouvement sur pause. Toutefois, les actions continuent car nous ne sommes pas satisfaits.
Triste nouvelle, un adolescent de 15 ans, Yuri, fête son anniversaire dans le coma après avoir été passé à tabac et laissé pour mort par 10 assaillants. Le ministre de l'Intérieur qualifie l'agression de sauvage, tandis que la mère, elle, déclare que « Yuri va mieux, il commence à se réveiller, à vouloir nous parler, et ça, c'est un très bon signe ».
La vedette de télévision américaine et présentateur de CNN, Larry King, est mort ce samedi 23 janvier, à l'âge de 87 ans.
Passons au dimanche avec le mondial de handball qui se passe bien pour les bâtisseurs. Ils donnent une leçon aux Portugais en s'imposant 32 à 23. Une rencontre plus propre que celle de vendredi gagnée difficilement et salement face à l'Islande. Plus tard dans la semaine, ils se qualifieront pour la demi-finale face à la Hongrie. Un match contre la Suède qui s'annonce donc mouvementé.
Ce dimanche 24 janvier, Israël annonce l'ouverture d'une ambassade à Abu Dhabi et les Émirats Arabes Unis ouvrent également une ambassade à Tel Aviv. Ceci a lieu 4 mois après l'accord de normalisation signé entre les deux États et vise à approfondir encore plus leurs liens diplomatiques.
Boris Johnson et Joe Biden se sont appelés. Il est ressorti de l'échange une volonté d'approfondir les relations entre Londres et Washington ainsi que la possibilité d'un accord de libre-échange entre les deux pays. Passons alors au lundi, où 3 hommes sont pendus en Irak pour terrorisme. Les organisations des droits humains s'en inquiètent. En effet, 340 hommes avaient été condamnés, mais pas encore exécutés. Cette action fait donc craindre un lourd bilan pour la peine de mort irakienne en 2021.
Aux Pays-Bas a eu lieu ce lundi 25 janvier une deuxième nuit de manifestation contre l'imposition d'un couvre-feu afin de lutter contre la pandémie du Covid-19. Ce sont les premières manifestations depuis la Seconde Guerre mondiale et se sont rapidement transformées en émeutes avec vandalisme et affrontements avec la police. Plus de 70 personnes ont été arrêtées et Mark Rutte, ex-premier ministre, dénonce une violence criminelle qui sera traitée comme telle. Il annonce également « Tout cela n'a rien à voir avec une lutte pour la liberté. Nous devons gagner le combat contre le virus, sinon nous ne retrouverons pas notre liberté.
Fermées depuis le premier confinement, les boîtes de nuit françaises pourraient bientôt rouvrir. Non pas par défiance ou pour fêter la fin de la pandémie, mais plutôt pour se convertir en centre de vaccination d'urgence. 1600 établissements sont concernés.
Ce lundi 25 janvier, Joe Biden autorise les personnes transgenres à servir dans l'armée. Les personnes transgenres sont des individus qui ne s'identifient pas à leur sexe de naissance. Ces personnes ayant été victimes de discrimination par l'administration Trump, la Maison-Blanche annonce que tous les Américains aptes à servir dans les forces armées des États-Unis devraient pouvoir le faire et que le président Biden considère que l'identité sexuelle ne devrait pas être un obstacle au service dans l'armée et que la force de l'Amérique réside dans sa diversité.
En Tunisie, les manifestations ayant lieu depuis la mi-janvier pour une meilleure politique sociale et la libération de certains protestataires s'intensifient. La mort de Haïl El Rajdi, un jeune de Zbeitla, dans la région centrale de Kasserine, le 19 janvier, a en effet changé les enjeux de ces protestations.
Ce mardi 26 janvier, 39 pays se sont engagés à verser 439 millions de dollars à l'ONU durant les 4 prochaines années à un fonds de soutien à la paix dans les pays touchés par les conflits. Néanmoins, la somme est décevante pour l'organisation tunisienne qui espérait récolter 1,5 milliard de dollars. Au cours des 3 dernières années, ce fonds a notamment permis de financer des opérations dans 51 pays.
En Ukraine, le peuple est déçu. Déçu par la politique anticorruption du président Zelensky. Certains déclarent même « Zelensky a vendu notre famille aux oligarques ». En effet, sa lutte s'essouffle depuis que la demande de suspension du président de la Cour, accusé de corruption, a été refusée par cette même Cour le 29 décembre.
Maintenant, pour le petit point Covid, mardi est l'une des journées les plus meurtrières du Covid-19, avec 18 109 décès enregistrés dans le monde, et cette semaine a officiellement été la plus meurtrière depuis le début de la pandémie, enregistrant 101 366 décès, un nombre sous-évalué cependant, selon l'AFP. Et en Chine, une nouvelle manière de détecter le virus a été mise en place, le test anal. Heureusement, selon Bloomberg, les personnes ont reçu, et je cite, un petit avertissement avant le test.
Rassurant. Lors du forum de Davos, le forum de l'économie mondiale, Bruxelles fait pression sur les laboratoires pour récupérer les doses de vaccins commandées. Tout ceci, bien entendu, en affichant une image coopérative et une volonté d'assister les pays démunis dans leur lutte contre le Covid-19.
Vous avez sûrement vu la célèbre photo de Bernie Sanders prise lors de l'investiture de Joe Biden. Nous y voyons le sénateur américain assis sur une chaise, emmitouflé, les bras croisés, portant ses plus belles moufles. Eh bien, ce mercredi 27 janvier, Bernie Sanders annonce qu'il a récolté 1,8 million de dollars grâce aux ventes de produits estampillés de la photo qu'il versera à des organisations caritatives.
D'importantes manifestations ont eu lieu en Inde cette semaine. New Delhi s'est véritablement transformée en ferme géante avec l'arrivée de dizaines de milliers de fermiers avec leurs tracteurs. Ceux-ci manifestent contre la libéralisation du secteur agricole. Ils ont obtenu la suspension des 3 lois contestées, mais disent qu'ils ne quitteront pas la ville à moins que le projet soit abandonné. Les événements opèrent en pleine fête nationale.
Avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, le français est envisagé pour remplacer l'anglais en tant que langue européenne ce mercredi 27 janvier. Comme les anglo-saxons ne représentent plus que 2% de la population européenne, le français et l'allemand sont tous les deux évoqués en tant que substitut pour l'anglais.
Enfin, Charlie Dalin est le premier à passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe ce mercredi. La fin d'un long et éprouvant tour du monde pour le skipper. Tous ne sont pourtant pas au bout de leur peine.
Néanmoins, Charlie Dalin n'est pas le vainqueur de cette course. Yannick Bestaven a été le troisième à toucher terre ce jeudi 28 janvier et remporte le Vendée Globe grâce à des compensations pour être venu en aide à Kevin Escoffier, le jury lui accordant 10h et 15 minutes.
Un juge américain donne son feu vert pour l'extradition vers le Japon de deux complices de Carlos Ghosn, ex-patron de Nissan Renault accusé de détournement de fonds. Michael et Peter Taylor sont donc envoyés en Japon pour que justice soit faite.
Ce jeudi 28 janvier, un homme sans emploi de 45 ans a tué à Valence une conseillère du Pôle emploi, ainsi qu'une autre salariée d'une entreprise ardéchoise. Le motif est cependant inconnu et l'homme a été placé en garde à vue. C'était Zachary Pénès et Marie Hart pour la radio des jeunes reporters. À la semaine prochaine.